Le lendemain, appréhendant d'endurer sa logorée, j'avais décidé de ne pas descendre au sous-sol. Cependant, au cœur d'une transaction, je quittais soudain la table, théâtrale, et par réflexe m'engouffrais aux toilettes. Madame Ming me fêta d'un salut de la tête, les yeux brillants. Trop tard. Devant les lavabos, je mimais l'homme préoccupé. Je me peignais, me rinçais les mains, une fois, deux fois, me frottais les dents, me peignais encore, m'acharnais à illuminer une souillure imaginaire sur ma cravate en la grattant, en la mouillant, en la séchant. Bref, j'employais niaisement mon temps. Au fond de moi, je maudissais le piège dans lequel je venais de me fourrer en fuyant mes interlocuteurs chez la dame Pipi. Ne ferais-je pas mieux de m'enfermer aux toilettes pour jouer avec mon téléphone? Non, je trouvais cela minable, l'isolement informatique, l'autisme numérique. Si j'avais cédé à cette facilité, je n'aurais jamais pu acquérir 9 langues, ni sillonner le globe. Je pestais tant face au miroir que, en mordillant une peau morte sur le bord d'un ongle, je m'entaillais la chair et mon doigt se mit à saigner. La première goutte brune échoua sur la cravate, la deuxième sur ma chemise. « Merde !» Madame Ming ne comprenait pas le français, mais se rua vers moi. « Laissez-moi vous aider, monsieur. Fiez-vous à moi, j'ai les produits qu'il faut. » Je la toisais, son dévouement semblait sincère. Étrange personnage. Sitôt que je regardais cette affabulatrice, j'éprouvais une sympathie instinctive. Sans minauder, mon index enveloppé d'une serviette en papier, je retirais ma veste, ma cravate, ma chemise, et lui confiais ces 2 dernières. Opportunément, selon la mode chinoise, je portais un maillot en coton blanc à même le torse, de sorte que, une fois ma veste remise, je conservais une apparence décente. Madame Ming retourna à sa table, saisit une trousse, en retira un chiffon, une fiole, puis décapa les tissus. Par désœuvrement, je m'assis auprès d'elle. Elle me sourit comme si mon rapprochement exprimait de l'amitié. J'ai l'habitude. Mes jumeaux, Kun et Kong, étaient pareils. Oh, pardon, je veux dire pire que vous. Kun et Kong attiraient les taches. Irrépressibles, de vrais séducteurs. D'où qu'elles viennent, taches de gras, taches de sauce, taches de thé, taches de cambouis, elles se précipitaient et hop, sur la chemise, sur le polo, sur le pull, près du cœur. Ça, ils ont commencé très jeunes, mes jumeaux, à collectionner les vêtements éclaboussés, les griffures, les éraflures, les bosses au front, les croûtes aux genoux. Plus téméraire, je n'ai pas connu. Ils sautaient des fenêtres, ils grimpaient aux arbres, ils parcouraient les toits, fallait planquer les échelles ou les cordes. À peine leur père leur avait-il offert un vélo que les deux se dressaient debout sur la selle. Moi, j'ai d'abord eu peur. Pourtant, au bout de quelques années, je ne m'alarmais plus. Ils s'en tiraient toujours. Auraient-ils désiré plonger dans une mare depuis un rocher de 30 mètres, je n'aurais pas scié. Il y a juste pour les habits que je râlais, vu que je gaspillais des heures à les laver, les étendre, les repasser. Puis ça m'irritait. Pouvait-il montrer tant d'habileté et tant de maladresse à la fois? Marcher sur les mains, se bloquer le cou entre les cuisses, exécuter le pont arrière, charrier l'autre sur une épaule, mais ni manger, ni boire proprement? Je subodorais la sournoiserie. S'ils effectuaient des mouvements compliqués, pourquoi rataient-ils les gestes simples? À l'époque, monsieur, j'ignorais que les élus ne réussissent que l'extraordinaire et loupent l'ordinaire. Le don, c'est inéquitable, autant pour ceux qui le reçoivent que pour ceux qui en manquent. Bref, moi, par flemme, j'ai alors décidé de les laisser en short. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne se salissaient plus, qu'ils ne se blessaient plus, qu'ils cessaient de s'écorcher sitôt qu'ils se trouvaient nus. C'étaient des enfants de cette sorte, des enfants que les habits rendent maladroits, des enfants pas faits pour les chaussures, les pantalons, les chandails, tout ce qui sert ou qui engonce. Voici donc votre conseil, conclus-je. Poursuivre mon métier dévêtu? J'avais souri. Elle rougit et s'absorba dans les plis de ma chemise de moins en moins maculés. Madame Ming détenait vraiment le talent de proférer des mensonges colossaux avec une angélique douceur. Au fond, ses délires m'égayaient. J'entrais dans son jeu. Kun et Kong ont été engagés par un cirque. Elle tressaillit. Comment le savez-vous? Intérieurement, je songeais, logique de la fiction, le récit aboutit à une chute. Extérieurement, je me bornais à une mine satisfaite. Elle enchaîna. Kun et Kong sont devenus acrobates au cirque national. Ça n'a pas été facile.
Pourquoi ?
Parce qu'ils se ressemblaient comme deux œufs, identiques à la perfection, à virer fou. Même moi, leur mère, je m'y perdais. Je n'ai jamais su si la claque que je donnais à Kun frappait Kun, pas Kong. En réalité, ça dépendait de leur bonne volonté. Leur similitude surprenait tellement que lorsqu'ils accomplissaient une acrobatie ensemble, ils n'étonnaient plus. À les voir analogues, si incroyablement analogues, les gens estimaient que la nature avait déjà fait le travail. Pourtant, ils avaient sué mes jumeaux, afin de peaufiner un estomacant numéro d'acrobatie où ils réalisaient des mouvements synchrones. Un bide ! Les gens bâillaient. Quelle cruauté ! Ils considéraient en chaque garçon le reflet de l'autre dans un miroir. Or, ça n'est pas de personne un reflet. J'ai dit à Kun et Kong qu'ils devaient se différencier, risquer des coiffures opposées, des costumes mal accordés, des maquillages disparates. J'ai aussi insisté pour que Kun grossisse et que Kong maigrisse. Les pleurs, un drame. Je n'ai pas fléchi, ils m'ont obéi. Non seulement on ne repérait pas des jumeaux, mais on ne suspectait pas leur parenté. Dès qu'ils présentèrent une nouvelle fois leur numéro, les gens applaudirent debout. « Vous rendent-ils souvent visite ?» Elle s'assombrit. « Non. Le cirque national voyage beaucoup, partout. Récemment, je crois qu'ils sont allés dans votre pays, en France, la ville de Marocco, Manoco. Monaco ?» Elle me remercia, heureuse de rectifier son erreur, et répéta, afin de mémoriser la prononciation, « Monaco, Monaco, Monaco ». Je ne savais si elle me touchait ou si elle m'horripilait en tenant à ce que les détails de sa jactance improvisée demeurassent véridiques. Monaco n'est pas une ville française, quoiqu'elle se situe en France, mais une principauté, précisai-je, un royaume sur un rocher. Madame Ming fronça les sourcils, sceptique. Un royaume sur un rocher, une ville non française sur le territoire français, cela ne la convainquait pas. Et louchant presque, elle me jaugea avec méfiance. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Quel culot ! Douter de mes paroles alors qu'elle me flouait sans vergogne en se créant des enfants. La colère m'embrasa. Malgré moi, je tentai de la mettre en contradiction. « Madame Ming, les autorités ne se sont pas offusquées que vous ayez 10 enfants. Nous vivions à la campagne, dans une maison très isolée. Personne ne vous a dénoncé ? Que faisions-nous de mal ? Mon mari et moi désirions 10 enfants, nous en avons eu 10, nous les élevions bien. Pourquoi les gens nous auraient-ils cherché des poux ?» Je soupirai, mais ne cessait pas mon interrogatoire. Un voisin jaloux, frustré, aurait pu vous dénoncer. Nous déménagions souvent. Un instituteur aurait pu être intrigué par... Nos enfants portent des noms différents. Nous leur avons demandé de se prétendre cousins plutôt que frères et sœurs. Je constatais qu'elle avait assez réfléchi à son canular pour le rendre crédible. Sans doute n'étais-je pas le premier à qui elle racontait cette parade des 10 enfants. « Certains vivent-ils aujourd'hui avec vous ?»«
Non, aucun. »«
Pourquoi ?»« Ils sont adultes. Ils travaillent. »«
Ici ?»«
Un peu partout. Parfois loin. »« Bizarre, non ?» Elle se cabra sur son tabouret. « Après la mort de mon mari, je me suis installée à Yunhai. »«
Pourquoi ?»
Elle haussa les épaules, regrettant d'énoncer une évidence. « Il y a des emplois ici. » J'ai été ouvrière 3 ans à la fabrique Pearl River Plastic Production avant d'obtenir ce poste au Grand Hôtel. Je m'exclamais émerveillé, « Pearl River Plastic Production ? Mais moi aussi, je commerce avec eux. Drôle !» Elle darda sur moi un regard hostile, estimant qu'il n'y avait matière ni à rire ni à s'ébahir. Pearl River Plastic Production fournissait la plupart des emplois à Yunhai. « Chez Pearl, dans quel service travaillez-vous, Madame Ming ?» À l'atelier des poupons. Elle me remit ma cravate, ma chemise, saisit son sac, y rangea ses ustensiles, vida les piécettes de son écuelle et, sans relever les sourcils, me dit d'un ton poli mais acerbe « Bonsoir, monsieur. » Je la remerciai, la saluai et pris machinal l'escalier. Au milieu des marches seulement, je m'aperçus que la dame Pipi venait de me congédier.